Radio Okapi.
Voici les titres de ce radio-journal. Le Congo-Brazza n'entretient pas des relations avec les Rwanda, de nature à déstabiliser la RDC. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazza qui coupe court aux allégations selon lesquelles son pays complote pour nuire à la RDC. 9e jeu de la francophonie, le Congo-Brazzaville et le Sénégal félicitent la RDC de la démonstration des capacités africaines à organiser des grands événements mondiaux. Notre invité, c'est Joseph Mwinkeu, directeur provincial de l'éducation au Katanga 1. Il va nous parler du déroulement des inscriptions pour les nouveaux et anciens élèves. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Congo-Brazzaville coupe court à toutes les rumeurs faisant d'une volonté de nuire des autorités de Brazzaville vis-à-vis de celles de Kinshasa. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Le président Denis Sassou Nguesso est un médiateur né. Déclaration de Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville. Il recadre ainsi l'opinion qui répand l'idée selon laquelle le Congo-Brazza entretiendrait des relations avec les Rwandais de nature à provoquer une déstabilisation de la RDC. Le ministre congolais de Brazza en charge de la communication répondait ainsi à une question de la presse kinoise au sortir d'une audience que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a accordée à son homologue brazzavillois Anatole Koliné Makoso. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement brazzavillois, met en garde les médias des deux pays quant à leur rôle d'informer de manière professionnelle. Il est au micro de Billy Van Lutumba.
Le président Denis Sassou Nguesso, dans le cadre des usages diplomatiques, a répondu un peu plus d'une année plus tard à une visite d'État du président Kagame à Brazzaville. Et dans les usages diplomatiques, il est prévu que la réciprocité de ce type d'échange, de contact, soit faite dans les mois qui suivent. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République, eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains, il y a d'autres nationalités qui viennent. Et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soit sensible pour la République démocratique du Congo.
Et au sujet des 9e jeux de la francophonie, le Congo-Brazzaville et le Sénégal félicitent la République démocratique du Congo de la démonstration des capacités africaines à organiser des grands événements mondiaux. Anatole Koliné Makoso, premier ministre brazzavillois, et Amadou Ba, premier ministre sénégalais, expriment cette reconnaissance auprès de leur homologue congolais Jean-Michel Samalou Kondé. Ces derniers les a reçus hier samedi à la primature. D'autres aspects de la diplomatie et de la coopération bilatérale figurent parmi les sujets abordés également. Billy Van Lutumba.
Pour Anatole Koliné Makoso, l'organisation de la 9e édition des Jeux de la Francophonie est à ses yeux un succès total au vu de beaucoup d'émotions, d'énergie lors de la cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Encouragement aussi réitéré par le Sénégalais Amadou Ba.
C'est un exemple que nous donnons au reste du monde que nous sommes nous aussi capables d'organiser de grands événements de cette taille et les réussir.
Le Congo nous a fait le privilège d'organiser cette année cette grande manifestation. Au passage, je tenais à vous féliciter pour la parfaite organisation.
Anatole Koliné Makoso a par ailleurs souligné que la RDC, le Congo-Brazza, étant intimement lié, des défis économiques, les attentes des populations et des questions environnementales ont été examinées.
Nous avons aussi célébré la convergence de vues entre nos deux chefs d'État. Nous sommes tous deux pays qui font face à de grands défis pour le développement du continent, pour l'émergence de nos pays respectifs, pour la satisfaction des besoins vitaux de notre population. Nous organiserons bientôt le sommet des trois bassins et l'expertise, l'expérience de la RDC sont sollicités parce que la RDC, c'est l'un des poumons du bassin du Congo.
De son côté, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a salué la présence à Kinshasa de ses deux homologues et a martelé sur la nécessité pour les trois pays de préserver l'intérêt supérieur des populations.
Sur le terrain de la compétition, en football, la première journée s'est poursuivie hier samedi au stade Tata Raphaël où le Sénégal et le Congo-Brazzaville se sont neutralisés 2-2. En basketball, la RDC a été battue par les Libans par 61-53. Basketball toujours, Sénégal 95, Congo-Brazzaville 18, Roumanie 125, Tchad 43. Le Bénin a battu Haïti par forfait 20-0. En lutte libre, l'athlète Rabi Kilandi donne à la RDC sa troisième médaille de la journée. Skobar a perdu en finale devant l'Arménien Gervodgan au point 1-10. Désormais, la RDC compte 3 médailles, dont 2 en argent et 1 en bronze. Cette autre nouvelle, la Fondation Katangaise, coordonnée par les questeurs de la CENI, AG Matembo, commémore le 20e anniversaire de la disparition de l'ancien Premier ministre Janguza Karliboun. Une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire hier samedi à l'église de Fatima ici à Kinshasa. Sa famille biologique et plusieurs personnalités du monde sociopolitique ont pris part à cette cérémonie pour témoigner leur affection à un être qui leur a été cher. On écoute tour à tour Patrick Ngunza et Raphaël Moututa, respectivement fils aîné de Janguza Karliboun et président de la Fondation Katangaise, au micro de Junior Ika.
Janguza Karliboun est d'abord un très grand homme d'État dans ce pays. Il a marqué ce pays, il a été un grand diplomate, il a été appelé à résoudre beaucoup de conflits, de problèmes de manière internationale. Il a été parmi aussi les pionniers de la démocratie, il ne faut pas oublier, dans ce pays. Parce qu'il a créé d'abord son parti PRI, et après il est parti s'associer avec la FENADEC et pour créer l'UFERI, qui, vous le savez, a fortement bousculé la dictature de Mobutu à l'époque.
Le temps efface l'homme, mais ses œuvres rappellent son existence. Ce Katangé qui nous avait appris qu'à chaque fois que nous affrontons nos peurs, nous gagnons de la force, du courage et de l'assurance. Quoi qu'il était politicien, il s'est attelé à valoriser les principes de la fraternité katangaise. Justement, il s'est sérieusement investi pour donner de la valeur aux dignitaires du Katanga.
80% de leurs produits en Ituri échappent totalement aux différents services de contrôle et alimentent les groupes armés actifs dans cette province. Constat fait vendredi par les acteurs miniers et différents notables de l'Ituri au cours d'une rencontre sur la gouvernance aurifère dans les territoires de Djougou et Mambasa. Selon eux, ces minerais sont exportés frauduleusement dans les pays voisins et cela cause un manque à gagner énorme pour la province. Ils demandent au gouvernement d'accélérer le programme de désarmement des miliciens pour lutter contre l'exploitation illicite des minerais. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Pendant 2 jours, des acteurs miniers, la société civile ainsi que différents notables des territoires de Djougou et Mambasa ont passé au peigne fin la législation minière et son application dans la province de l'Ituri en proie à l'activisme des groupes armés. Ils ont aussi fait la cartographie des miliciens ainsi que des militaires qui se livrent à l'exploitation illégale de l'or dans ces deux territoires. Tiber Kajemba, président de la société civile, des ONG et expert des questions minières dans le projet Madini Komaendeleo, indique que plus de 80% de l'or sont produits dans ces territoires et une grande quantité est exportée frauduleusement dans les pays étrangers, notamment voisins. Une situation qui, selon lui, serait à l'origine du financement des groupes armés qui sèment terreur et désolation dans la province. Il demande au gouvernement central d'accélérer des opérations pour déloger les miliciens autour des sites miniers. Tiber Kajemba.
Il y a au moins 80 ou 90% de l'or qui part frauduleusement sans être enregistré au niveau des statistiques. Vous comprenez que la fraude est totale. Il faut obligatoirement on accélère le PDDRC dans sa mise en place. On a demandé qu'il y ait un fort programme de démilitarisation du site minier.
Cette rencontre qui a bénéficié du soutien technique de la MONUSCO rentre dans le cadre de l'exécution d'une feuille de route et des recommandations adoptées au bureau du secrétariat technique du processus de Nairobi. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Sud Kivu, plus aucun enfant ne doit se retrouver dans les groupes armés. C'est le message porté par la délégation du PDDRCS national aux associations qui œuvrent pour la protection des enfants dans cette province. C'était à l'issue d'une rencontre entre les parties prenantes vendredi à Bukavu. Le PDDRCS dit avoir constaté que des enfants pourtant réinsérés dans la communauté sont enrôlés plus d'une fois dans les groupes armés. Écoutez Maître Rex Ntoma, expert en démobilisation, désarmement et réinsertion des enfants à la coordination nationale du PDDRCS au micro de Cynthia Bachizi. Nabizana.
Il y a eu quelques défis, contrairement à la réinsertion qui a été faite dans les années précédentes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des enfants qui ont été enrôlés plus d'une fois. Alors, pour éviter la répétition de ces genres, il a fallu que nous puissions trouver une piste de solution pour que cette fois-ci, la réinsertion communautaire soit durable. Et nous profitons de votre micro, madame, pour lancer également un appel à tous les groupes armés. Les recrutements et l'utilisation des enfants constituent un crime. C'est le moment de pouvoir relâcher les enfants. Libérer les enfants au sein des groupes armés, c'est un préalable. Parce que ces crimes constituent les violations graves des droits de l'enfant au même titre que les crimes internationaux qui peuvent être poursuivis à tout moment. Donc c'est le moment, lorsque nous lançons un appel, de pouvoir libérer les enfants. C'est à eux de saisir, n'est-ce pas, la balle au bon et de pouvoir libérer les enfants.
Par ailleurs, au Nord Kivu, les enfants de Walikale et spécialement ceux du secteur de Wanyanga et leurs amis réfléchissent sur la transformation positive des conflits dans leur milieu de vie. Vendredi, ils se sont retrouvés dans un atelier à Goma. Rendez-vous organisé par l'ASBL Save Communities in Conflict SEC avec l'appui financier de l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, Paul Institute. Le caractère inhérent à la nature humaine du conflit, d'autres causes du conflit et la manière positive de résoudre les conflits sont parmi les thèmes débattus au cours de ce forum. Jules Ngala fait partie de ceux qui ont participé à ces rendez-vous. Il signe ses reportages.
En développant une thématique aussi globale sur la transformation positive des conflits, les organisateurs poursuivaient quel objectif opérationnel? Maître Ruben Mouima, l'un des responsables de Save Communities in Conflict.
Les conflits sont normaux, les conflits sont naturels. Donc, on ne doit pas s'imaginer vivre dans une société sans conflit. Mais il faut voir, si vous avez des conflits, comment vous les gérez, comment vous les transformez d'une manière positive.
Un tel atelier arrive-t-il à point nommé? L'un des participants, Baruku Joseph, notable de Walikale, pense que oui. Quelle est alors la recommandation pour transformer positivement le conflit? Baruch Joseph estime que l'entente mutuelle est le travail en commun.
L'essentiel est l'entente entre les individus. Parce que quand il y a entente, nous allons faire un travail en commun. Cela pourra permettre à notre territoire, à notre milieu de bien se développer.
Goma, Jules Galawamona, Radio Kapi.
Direction la province du Maniema, où les habitants du quartier Brazaneema, dans la commune de Mikelenge, éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les habitants de cette partie de la ville de Kindu se contentent parfois de l'eau des puits pour répondre à leurs besoins ménagers. Ils sollicitent l'érection des bornes fontaines pour leur permettre de disposer de l'eau propre. Un reportage de Florence Kizalunga.
À notre passage au bloc Brazaneema, quelques habitants rencontrés profitent d'exprimer leur colère. Les autorités sont ainsi prises à partie. Ces habitants leur accusent de ne pas chercher à résoudre l'épineux problème de manque d'eau potable. Ils plaident pour que même les hommes de bonne volonté leur viennent en aide en plaçant par exemple des bornes fontaines. Dans ces blocs visités, les habitants n'ont que des puits qui malheureusement ne sont pas aménagés. Pour avoir un bidon d'eau, le femme parcourt des kilomètres. Témoignage.
Ici chez nous, c'est très difficile pour trouver de l'eau à boire. On passe toute la journée au quartier pour chercher de l'eau à boire, mais on ne trouve pas. Ici chez nous, on n'a pas de l'eau des régies des eaux. On utilise seulement de l'eau des puits.
La population d'ici connaît une difficulté à l'utilisation d'une eau impropre. Et cette eau, on la puise dans un puits qui est malheureusement mal installé à l'endroit où les installations sanitaires sont à quelques mètres du puits, qui a risqué même de créer des maladies d'origine hydrique. Alors s'il y a moyen, on peut demander ceux qui peuvent avoir la bonne volonté de nous construire une borne fontaine pour que nous puissions commencer à prendre un peu de l'eau qui est potable et bien aménagée.
Le manque d'eau potable se pose dans plusieurs quartiers de la ville de Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Kapi.
Que font nos enfants pendant les vacances? Une artiste de la ville de Beni encadre depuis quelques jours des élèves et étudiants en leur apprenant du bricolage et tissage des objets en perles. C'est dans un double objectif, affirme-t-elle. Les occuper utilement pendant ces grandes vacances et aussi les aider à préparer leur avenir à travers ces métiers professionnels. Sadiq Aboubakar nous en parle dans ce reportage.
Ils sont une dizaine, répartis en deux vacations. Des jeunes adolescents du cycle d'orientation, des finalistes du secondaire en attente des résultats, et même des diplômés d'État en chômage et des étudiants. Déborah Boukeke, diplômée d'État, parle de sa motivation.
J'apprends ces travaux manuels parce que je sais que ça pourrait m'aider autrement. Faire ceci, c'est pas une perte de temps. Parce que lorsque tu te sacrifies à une chose, ça veut dire que tu as l'objectif de ce que tu es en train de faire. Donc ce que je suis en train de faire, je sais que j'y obtiendrai quelque chose.
Rosine Kakine est quant à elle, finaliste du secondaire et attend les résultats de l'examen d'État.
La vie nous réserve beaucoup de choses. Je peux espérer à mes études, mais ça peut bâcler. Alors je prépare mon avenir par ce métier.
Akiba Muliro Gloria est une artiste multidisciplinaire. Elle explique le but de son initiative.
Pour essayer de réduire les risques liés aux vacances et d'aider aussi les parents à les encadrer vu que les études les occupent. Et quand il y a vacances, automatiquement, ils ont tellement d'air libre qu'ils peuvent faire des bêtises dans les quartiers ou à la maison. Alors je les encadre dans ce sens. En préparant bien sûr aussi leur avenir.
Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La France suspend toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger après les coups d'État militaires contre le président élu Mohamed Bazoum, annonce samedi le ministère français des Affaires étrangères. Paris demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Bazoum élu par les Nigériens, réaffirme le ministère dans un communiqué.
L'invité.
Les inscriptions pour les nouveaux et anciens élèves sont gratuites dans les écoles tant du secteur privé que public. Information livrée à Radio Okapi par le directeur provincial de l'éducation au Katanga 1 pour Joseph Munkeu. Tout contrevenant s'expose au retrait de l'agrément de l'établissement. Le prophète Joseph Munkeu est l'invité de ce journal. Il s'entretient ici avec Jean Gandou.
Monsieur le prophète, bonjour.
Bonjour.
À quoi servent les frais des réinscriptions que les parents payent dans les différentes écoles, notamment celles privées?
Si vous lisez très bien le calendrier scolaire 2023-2024, que son excellence Monsieur le ministre de l'EPST a eu à rendre public, il est écrit noir sur blanc que les inscriptions sont gratuites. Et cela dans toutes les écoles, tant publiques que privées agréées. Nous avons eu à faire une note circulaire pour interdire aux écoles privées agréées surtout, qui se sont livrées à percevoir ces frais dits d'inscription. Mais nous avons demandé à ceux qui ont eu à les faire de transformer le frais d'inscription en frais minerval pour le mois de septembre. Parce que nous avons eu à constater par certaines dénonciations que nous avons reçues des parents, il y a une école par exemple où le moins est payé à 50$, mais on a demandé le frais d'inscription à 100$. Nous avons demandé à cette école-là de prendre ces 100$ et de les remettre sur le frais minerval du mois de septembre et le mois d'octobre. Et donc, ces parents-là qui a eu à payer 100$ comme frais d'inscription n'aura pas à payer le mois de septembre et le mois d'octobre. Et pour ceux qui ont eu à demander, par exemple, un seul mois, ils vont carrément transformer ces frais au frais du minerval du mois de septembre. Et cela, c'était suite à l'entretien que nous avons eu avec les associations de promoteurs des écoles privées agréées. Ils sont venus nous dire que les frais d'inscription, les aider à démarrer ou à payer les enseignants pour le premier mois de septembre, leur avons dit que cela n'avait pas vraiment objet d'être. Selon les instructions et la loi cadre, une école privée avant d'ouvrir, elle doit se rassurer d'avoir des moyens suffisants pour faire fonctionner son école pendant au moins une année, s'il n'a pas d'entrée. C'est ce que la loi dit.
Depuis la sortie de votre circulaire, il y a dans certaines écoles où on ne perçoit plus les frais de réinscription, mais on a majoré les frais de minerval. Et que comptez-vous faire par rapport à cet aspect des choses?
Je pense que c'est de la responsabilité des parents. Si vous lisez très bien l'article 180 de la loi cadre, la loi donne l'autorité aux parents et aux promoteurs de se mettre ensemble pour fixer le frais de minerval. Et donc, si le promoteur doit majorer le frais minerval, le parent doit poser la question, pourquoi est-ce qu'il a majoré? Il doit donner des explications logiques auprès des parents. Et si les parents actent qu'il y ait une majoration, en tout cas, c'est à leur niveau, parce que la loi donne cette possibilité à ces deux de se réunir et de trouver une suite par rapport aux frais minervales qui doivent être fixés.
Vous ne pensez pas que c'est une manière de contourner cette circulaire?
Pas à notre niveau. Voilà pourquoi j'ai dit que chaque personne a sa responsabilité. Le parent est un partenaire de taille dans notre système éducatif congolais, tout comme le promoteur aussi sont des partenaires de taille dans notre système éducatif congolais. Et donc, l'article 180 est clair. Là, ce n'est pas le provide secrétaire qui se met avec le promoteur pour fixer le Minerval. C'est plutôt le parent et le promoteur qui se mettent ensemble. Il y a des comités des parents, qui sont d'ailleurs institués par arrêté du ministre, qui se mettent ensemble avec l'école pour discuter sur le frais qu'ils doivent fixer comme Minerval durant une année scolaire. Si les parents se disent que oui, nous sommes capables de payer 100$ le mois pour nos enfants, tant mieux. La loi leur donne cette possibilité. Si les parents disent que nous, chers promoteurs, nous serons en mesure de payer 50$ le mois, c'est l'entente entre le parent et promoteur de l'école et nous actons parce que les réunions doivent être sanctionnées par un PV que nous allons acter.
Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est prise. Qu'est-ce qui rassure le parent que cette fois-ci sera la bonne? Ces frais ne seront pas perçus.
Le professeur Tony Mwamba tient à ce que les instructions puissent être respectées. Et donc, nous avons reçu cette instruction et cette mission de faire respecter ces instructions sur terrain. J'ai reçu il y a quelques jours, là ce n'est pas dans mon bureau, c'est parce qu'ils ont senti que je tiens ferme à cette instruction. Nous avons reçu encore le syndicaliste des écoles privées agréées qui sont venus pour la même question. Nous restons fermes sur la chose et nous allons faire les suivis partout. Nous avons aussi convoqué les soi-disant grandes écoles pour leur instruire de se remettre sur le droit chemin. Parce que nous avons une seule décision à prendre en cas de violation ou de non-respect des instructions, c'est le retrait de l'agrément. Et vous allez lire dans la loi cadre que l'alinéa qui suit dit que le retrait de l'agrément occasionne automatiquement la fermeture de l'école.
Monsieur le Provède Mwinkeo, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Ngandou.
Fidèles auditeurs des Radio Capi, ce journal arrive à sa fin. Merci à Pele Kipela Mondo qui l'a coordonné et supervisé et Mimi Kindou qui l'a mise en onde grâce à Mzati Massanzi vous l'a présenté. Merci à vous de nous avoir suivis et de réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.